8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, gros plan sur Haïti. Quelle agriculture dans un pays en crise? Avec plus de 1500 morts rien que ces trois derniers mois du fait des bandes armées, comment cultiver, comment assurer l'approvisionnement aussi des marchés, notamment celui de Port-au-Prince, une capitale qui est contrôlée à plus de 80% par les gangs? Dans ce pays de 11 millions d'habitants, le plus pauvre des Caraïbes, près de 80% de la population en zone rurale vit sous le seuil de pauvreté. Globalement, près de 44% des habitants vivent en insécurité alimentaire aiguë, selon le programme alimentaire mondial. Et pourtant, l'agriculture fait travailler presque deux tiers des Haïtiens, avec des microclimats, une grande diversité aussi de produits. C'est le poumon économique du pays, en dehors des apports financiers des diasporas. Alors ce secteur agricole peut-il permettre la survie d'un pays littéralement effondré? Quel avenir pour des produits d'exportation aussi de grande qualité, qui sont actuellement en situation de blocage? Je pense au cacafé, au cacao, au vétiver. Les voisins et les voisines, si vous êtes en Haïti à l'heure actuelle, vous êtes nombreux, bien sûr, à nous poster des notes vocales depuis ce week-end. Il est près de 6h du matin chez vous. Si vous nous écoutez en direct, vous pouvez nous contacter, poster vos messages sur notre compte WhatsApp au 33 7 64 45 51 41 pour témoigner de la situation, comme cet auditeur. Écoutez-le.
Bonjour à tous, je suis Francis Jean depuis Haïti. Ce qui se passe en Haïti en ce moment est vraiment, vraiment triste. Même un animal ne devrait pas vivre dans une condition pareille. Partout, il y a des hommes armés, des gangs qui font ce qu'ils veulent. De nombreuses personnes qui travaillent depuis plus de 30 ans ont perdu leur maison dans la capitale ainsi que les zones avoisinantes. Chaque jour, des innocents meurent, le plus souvent par des balles perdues. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Les services sont bloqués. Les hôpitaux ne peuvent pas fonctionner. Les agriculteurs n'ont pas assez de moyens pour travailler la terre. En plus, ils n'ont pas la possibilité d'envoyer leurs marchandises en ville. Il y a peu de voitures de transport. Les marchandises n'entrent pas dans la ville, ce qui provoque une pénurie de tous les produits de première nécessité. Auparavant, on peut acheter à un prix raisonnable. Maintenant, c'est le triple. Avant, j'achetais une marmite d'haricots ou de maïs à 250 gourdes. Et maintenant, elle est triplée. Elle se vend à 1200 ou 1250 gourdes. N'en parlons pas pour le riz. Les choses sont vraiment, vraiment chères dans la capitale en ce moment. C'est vraiment difficile. Nous demandons à tous les grands pays qui se disent nos amis de venir nous aider à sortir là où nous sommes. Merci beaucoup.
Merci à cet auditeur, Francis Jean, qui nous postait ce message de Port-au-Prince, la capitale, une capitale qui est maintenant littéralement fuit par les habitants. Frédéric Capolin, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes agroéconomiste, directeur d'Agronomes et Vétérinaires sans frontières, une ONG qui est spécialisée dans l'agriculture, l'élevage, le développement rural. Et vous revenez d'une mission de plusieurs jours en Haïti, que vous avez dû écourter d'ailleurs en raison des problèmes de sécurité. Comment vous jugez ce témoignage? Est-ce que tout ou presque est dit sur la situation actuelle? Qu'est-ce qui manque? Quels sont les problèmes d'approvisionnement?
Oui, le témoignage est très complet. Haïti traverse une crise politique, économique et sécuritaire de grande ampleur. Ce n'est pas la première, ce ne sera peut-être pas la dernière, on ne l'espère pas. Donc le témoignage traduit parfaitement ce qui est dit. Et vous avez cité les chiffres sur l'insécurité alimentaire, 45 personnes en situation d'insécurité 45%. Alimentaire. Aiguë, hein, on a 15% de la population qui est au bord de la famine aujourd'hui en Haïti. Et ce qui est très intéressant dans le témoignage, c'est qu'on parle beaucoup de la ville de Port-au-Prince, puisqu'effectivement, c'est la ville de Port-au-Prince qui souffre énormément. Et grande partie de cette insécurité alimentaire, elle est en ville, où les produits arrivent peu, où les gens ont perdu des emplois. Il y a 360 000 personnes qui ont été déplacées à cause de la violence. Et c'est vrai que la ville de Port-au-Prince souffre, peut-être moins que les campagnes, même si tous les paysans, les paysannes souffrent aussi. Mais finalement, c'est aussi la ville qui souffre aujourd'hui plus que les campagnes en Haïti.
Sardou Jean-Denis, vous êtes en liaison avec nous. Bonjour à vous.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Et merci d'être en liaison avec nous de si bon matin. Il est près de 6h du matin chez vous à Port-au-Prince. Vous êtes agronome haïtien, responsable des projets agricoles de la Banque interaméricaine de développement en Haïti. On l'a dit, il n'y a donc plus de banques, les routes sont bloquées par des barrages. Le port de Port-au-Prince est également bloqué, alors qu'il faut le rappeler, l'agriculture haïtienne ne nourrit que pour 50% en fait, hein, des denrées alimentaires. Le reste, ce sont des denrées alimentaires importées. Comment se fait l'approvisionnement alimentaire de Port-au-Prince aujourd'hui ?
Eh bien, il faut dire que l'approvisionnement se fait très difficilement. Avec toutes ces difficultés que vous venez de mentionner, les routes qui sont bloquées, etc., au niveau des ports, c'est également bloqué. Donc, mais aujourd'hui, l'avantage que nous avons, c'est qu'il y a un secteur dans la chaîne de distribution ou bien d'approvisionnement des aliments qui sont les Madame Sarah et les Taxi Boto qui arrivent quand même à acheminer les productions des zones rurales au niveau de la capitale, dans les grands centres urbains. Ce qui permet quand même un survie de la population.
Pourquoi
donc,
des taxis-motos
à petite échelle?
Pourquoi des taxis-motos à si petite échelle?
Eh bien, parce que généralement, les routes sont difficilement accessibles par les camions. On va trouver les camions dans les grands centres urbains des villes de province et les taxis-motos, c'est eux qui font la première connexion entre la parcelle et ces grands centres urbains. Donc, ce qui fait que les Madame Sarah, en dépit de tout ce que nous pouvons avoir comme difficulté, mais arrivent quand même à passer avec des petits volumes de produits et qui arrivent quand même. Et il y a beaucoup d'articles aussi qui sont écrits sur ces Madame Sarah. En 2010, elles étaient les premières personnes à apporter de l'aide à Port-au-Prince, etc., avant que tous les convois, les appuis internationaux arrivent. Donc voilà. Mais c'est ce qui permet aujourd'hui quand même qu'on arrive à trouver quelque chose à mettre dans la marmite au niveau des familles, surtout qui se trouvent dans les quartiers les plus vulnérables à Port-au-Prince.
Des taxis-motos qui sont également taxés, tout comme les camions de marchandises.
Tout véhicule qui transite par les trois routes d'accès à Port-au-Prince, pratiquement tout véhicule est taxé aujourd'hui, est taxé par les gangs. Les taxis-motos parfois se frayent un chemin, mais il leur arrive aussi d'être taxés. Ce qui veut dire que les produits arrivent à Port-au-Prince, effectivement, mais assez cher, parce qu'il faut répercuter non seulement le prix du transport, mais le prix de ces taxes qui sont mises sur les quelques véhicules qui prennent des risques, hein, qui prennent des risques pour arriver à la capitale.
C'est la même chose pour l'essence, où il y a une
double
taxe.
Même chose pour l'essence. Quelque part, nous contribuons tous au financement de ces taxes, puisque le port pétrolier est effectivement repris par l'État aujourd'hui, mais l'accès au port est contrôlé par les gangs. Il y a donc double taxe sur l'essence, d'où le coût très élevé pour tout le monde à Port-au-Prince, bien sûr, mais aussi dans les campagnes. Tout le transport coûte plus cher, tous les intrants coûtent plus cher.
Ouais. On a près de 33 000 personnes qui ont fui la capitale, alors que historiquement, il y a eu énormément, avec soit les tremblements de terre, les soubresauts et les crises politiques, Port-au-Prince constituait plutôt un refuge.
Port-au-Prince constituait un refuge, tout à fait. Il y a eu une croissance de la ville, y compris. Le séisme a fait que beaucoup de gens aussi ont quitté Port-au-Prince, le terrible séisme de 2010. Voilà, donc effectivement, Port-au-Prince constitue un refuge. Aujourd'hui, des gens sont partis de Port-au-Prince. Ils sont partis dans différents quartiers pour fuir la violence. Ils sont repartis en campagne. Ça crée aussi encore de l'insécurité alimentaire parce que, d'une part, ces gens-là ont perdu parfois des emplois. C'est du petit commerce en ville, c'est du transport, c'est des petits métiers. Ils se retrouvent en campagne où c'est des bouches additionnelles à nourrir. Donc en campagne aussi, certes, elles souffrent peut-être moins que la ville aujourd'hui, mais il y a aussi une souffrance par la pression qui s'exerce sur les bouches à nourrir dans certaines familles aujourd'hui.
Nous allons parler...
Si je peux ajouter...
Mais je vous en prie, Sardou Jean-Denis.
C'est que ces personnes aussi laissent leurs moyens d'existence. C'est ce qui augmente beaucoup la crise dans la zone. Donc quand on fuit, on laisse la maison, mais on n'a pas tout ce qu'on avait comme facteur pour survivre, tout ce qu'on avait comme facteur pour essayer de répondre vraiment aux besoins du quotidien. C'est ce qui aggrave beaucoup la situation aussi à Port-au-Prince.
Alors nous allons parler bien sûr de ces circuits agricoles, de la production, mais aussi des produits exportés. Hein. Notamment, on donnera la parole à un producteur de vétiver. Le vétiver, c'est ce qui sert dans la parfumerie de luxe et c'est un secteur économique qui compte en Haïti. Vous pouvez nous contacter sur notre compte WhatsApp pour nous parler à la fois de l'approvisionnement en denrées alimentaires, mais aussi en amont de la chaîne de production au 33 7 64 45 51 41 pour témoigner de la situation ou poser des questions à nos invités. Ce sera juste après l'artiste Grégoire Chéry en créole dans le texte.
Les étoiles qui gagnent pour filer encore, combien bouger nous gagnent pour nous tailler encore, combien tonnelles nous gagnent pour nous monter encore, combien d'aimants nous gagnent pour nous chanter encore.
Combien caveau nous gain pour nous bouger encore? Combien rosé nous gain pour nous chanter encore? Combien maman, combien papa nous gain pour nous quitter? On est au thé à crier, toi sans couler. Combien innocents nous condamnés? Combien coupables quand vivre était à crier, toi sans couler. Combien innocents nous condamnés, combien coupables qu'on y nous gain pour touiller encore. Combien l'ouvre l'ival que nous gain pour touiller encore. Combien l'édoval nous gain pour assassiner encore. Combien l'étudier que nous gain pour touiller encore. Combien Evelyne Sessen gain pour touiller encore. Combien Grégory nous gain pour assassiner encore. Combien maman, combien papa nous gain pour nous quitter ton ange. Au thé à crier, toi sans couler. Combien innocents nous condamnés, combien coupables qu'on vive et t'aider à crier, toi sans couler. Combien innocents nous condamnés, combien coupables qu'on vive et t'aider. Ingénieur nous gain pour nous touiller encore. Combien médecins nous gain pour nous touiller encore. Combien infirmières nous gain pour nous touiller encore. Combien gentil filles nous gain pour nous violer encore. Combien petits bébés nous gain pour nous assassiner encore. Combien grand monde nous gain pour nous touiller encore. Combien maman, combien papa nous gain pour nous quitter. On est au thé à crier, au toi sans couler. Hey, hey. Combien innocents nous condamnés, combien coupables qu'on libère de terre à crier, toi sans couler. Oh, oh, oh. Combien innocents nous condamnés, combien coupables qu'on libère. Oh, 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 oh.
De voisins, nous sommes en direct sur RFI pour évoquer la situation de crise en Haïti, mais surtout pour parler de son agriculture qui, bien sûr, est largement impactée par l'insécurité des gangs, notamment pour distribuer les produits agricoles, les denrées alimentaires sur les principaux marchés, notamment celui de Port-au-Prince, hein, mais également avec des points positifs. Vous nous en parliez hors antenne. Frédéric Apollin, vous êtes agroéconomiste, directeur de l'ONG Agronome et Vétérinaire Sans Frontières, l'ONG AVSF. Vous nous le disiez, le cacao est en train de franchir des prix extrêmement importants sur les marchés mondiaux et les Haïtiens, peut-être bonne nouvelle, vont vendre leur cacao beaucoup mieux. Ça va être un petit peu d'oxygène dans les porte-monnaies des habitants.
Oui, l'agriculture, effectivement, on l'a dit, elle est en crise dans les villes, l'approvisionnement des marchés, et en même temps, elle est le poumon économique d'Haïti. Et si on prend certaines cultures comme le café, le cacao, le vétiver, c'est des cultures d'export, mais fondamentales pour la sécurité alimentaire des paysans haïtiens. Et aujourd'hui, effectivement, il y a quand même des opportunités que des organisations paysannes utilisent, dont elles profitent, sur des marchés internationaux, y compris en France. Ici, on trouve du chocolat haïtien aujourd'hui dans nos supermarchés. Ce sont des organisations, je pense notamment à la Fédération des petits producteurs de cacao du nord d'Haïti, 4000 producteurs qui exportent près de 500 tonnes sur le marché international, encore aujourd'hui, y compris dans cette période de crise. Et c'est ce qui fait résister ces économies sur les territoires ruraux. Et ça, c'est de l'espoir quand même pour Haïti.
Avec toutes les difficultés logistiques d'exportation, on va en discuter bien sûr. Mais bien sûr, nous vous donnons aussi la parole au 33 7 64 45 51 pour évoquer les difficultés sur place pour trouver des denrées alimentaires.
8 milliards de voisins, parce que nous sommes tous des voisins.
Et on écoute tout de suite les témoignages de ses habitants à Port-au-Prince et ailleurs.
Bonjour les voisins et les voisines. Je ne suis pas agriculteur, mais je peux vous dire que depuis plus de 2 semaines, l'accès aux produits agricoles est quasiment impossible pour nous à cause des actes de violence causés par les gangs dans la capitale. Il y a eu pillage et incendie dans plusieurs marchés publics. Alors, ça devient très compliqué pour nous, les consommateurs, de nous approvisionner. Maintenant, de nombreux commerçants ont décidé de ne plus envoyer leurs produits à Port-au-Prince parce que les gangs établissent des postes de pillage dans toutes les routes qui constituent une porte d'entrée vers la capitale, exigeant des sommes exorbitantes entre 400 jusqu'à plus de 1 500 $ américains selon la taille de la cargaison, ce qui résulte la montée des prix et la pénurie de produits. Et des zones qui autrefois étaient considérées comme des centres commerciaux sont inhabitées et désertiques. Tout le monde fuit la capitale et on n'arrive pas à faire des provisions correctement. Depuis quelques mois, on parlait du territoire perdu en Haïti. J'ai l'impression que c'est tout Haïti qui est perdu.
Écoutez aussi cet habitant de Pétionville. Pétionville, c'est un quartier aisé de Port-au-Prince qui était jusqu'il y a peu de temps le dernier quartier à conserver un semblant de normalité. Écoutez cet auditeur.
Bonsoir les voisins, je suis Pedro Richardot-Brésier. Je vous écoute depuis Pétionville. À l'instant où je vous parle, je peux dire qu'à Pétionville, les choses fonctionnent tant bien que mal, puisque les gens circulent plus ou moins librement. Il y a du monde dans la rue, il y a les marchands qui vendent des produits, qui liquident leurs produits facilement, assez facilement, je peux dire. Il est coutume en Haïti, dès qu'il y a, il y a une certaine annonce qu'il va y avoir un pays lock ou encore une grève des transports, il y a tendance qu'on augmente les prix, puisque pour avoir le droit de circuler, là je parle des camions qui transportent les marchandises, il faut qu'ils paient le passage. J'ai eu la chance de communiquer avec un chauffeur de camion qui m'a dit que son patron doit d'abord communiquer avec les chefs des bandes armées dans la zone où il va passer. Et on va lui remettre une enveloppe qu'il va lui à son tour remettre aux civils armés dans la zone où il va passer. C'est comme ça. Les citoyens, ils ne sont pas toujours tout près des magasins, encore des stations de purification d'eau potable. Donc là, ça augmente automatiquement les prix des produits. Je peux vous dire qu'il y a une affluence de marchandes qui viennent du Kinskoff pour liquider le produit à Pétionville. Donc cela sous-entend qu'il y a au moins une facilité de circulation pour qu'ils puissent arriver jusqu'à Pétionville et nous apporter leurs produits frais et à un prix qui ne varie pas trop. Je vous souhaite bonne journée. Merci.
Oui, un prix qui ne varie pas trop, mais enfin, à quel prix tout de même. Sardou Jean-Denis, vous êtes à Port-au-Prince, agronome, responsable des projets agricoles de la Banque interaméricaine de développement en Haïti. On l'entendait finalement, alors il faut tout de même préciser que même à Pétionville, dans ce quartier huppé de la capitale, il y a eu des cadavres qui ont jonché les rues. Certes, les denrées alimentaires arrivent, mais à quel prix ? Aujourd'hui, c'est l'inflation qui est le principal problème.
Tout à fait. C'est l'inflation qui est le principal problème, ce qui augmente déjà, ce qui aggrave beaucoup les personnes qui étaient déjà en condition très difficile à trouver les moyens pour s'acheter, pour acheter de la nourriture. Ça, c'est quasiment difficile pour la majorité des ménages en Haïti. Vous venez de le préciser en introduction, c'est plus de 50% de la population qui sont en condition d'insécurité grave. Voilà, d'insécurité alimentaire. Voilà. Donc, c'est une situation qui se complexifie, même aussi dans le sens inverse, dans le sens de la production. C'est très difficile aujourd'hui, oui. De la même façon que les camions n'arrivent pas à à livrer, à approvisionner les marchés de Port-au-Prince, c'est les facteurs de production ont beaucoup de difficultés pour arriver aussi sur le terrain.
Bien sûr, l'amont, on va en parler, l'amont de la filière agricole, mais cette agriculture haïtienne, Frédéric Apollin, agroéconomiste, directeur de l'ONG Agronome et Vétérinaire Sans Frontières, cette agriculture, ça ne date pas d'hier, elle ne couvre pas de toute façon la totalité des besoins alimentaires des 11 millions d'Haïtiens.
Non, effectivement, elle ne couvre pas les besoins alimentaires. Historiquement, Haïti importe en gros 50% de son alimentation. Elle ne couvre pas les besoins par manque aussi d'appui public. Il y a eu des politiques volontaristes pour soutenir les agricultures en Haïti, mais ensuite les moyens manquent, notamment au niveau de l'État, pour réellement soutenir, subventionner des intrants, mettre en place du crédit, permettre aux femmes d'accéder aux fonciers. Donc naturellement, sans appui, ces agricultures ne couvrent pas tout. Mais il y a quand même des grands bassins de production. On a un bassin rizicole qui est l'Artibonite aujourd'hui au nord de Port-au-Prince. On a des zones productrices de fruits partout dans le pays. Haïti est un pays connu pour sa production de fruits.
Les oranges,
les chadecs, ce qu'on appellerait des pamplemousses en France pour aller vite. On a des zones productrices de tubercules. Je pense à tout le sud d'Haïti qui produit des tubercules. Donc on a une richesse de production énorme, un potentiel énorme de production. S'il y avait un peu plus d'appui public historique, cette agriculture aurait pu couvrir plus d'alimentation. Et là-dessus se rajoute, ne l'oublions pas, le changement climatique et les effets aujourd'hui, non seulement des ouragans, on a eu Mathieu en 2016, mais aussi des sécheresses qui touchent aujourd'hui Haïti.
Et oui, bien sûr, on va en parler de l'état des sols, parce que cette terre qui est extrêmement nourricière, qui pourrait nourrir avec une grande abondance, est néanmoins menacée sur le plan environnemental. Juste une question, la moitié des denrées alimentaires dont les Haïtiens ont besoin, donc, ce sont des denrées importées, notamment des États-Unis. Par où arrivent ces denrées aujourd'hui, étant donné l'état du port et de l'aéroport international de Port-au-Prince?
Les denrées importées arrivent des États-Unis, mais elles arrivent aussi d'Europe, je pense au lait. Elles arrivent de République dominicaine, notamment des produits volailles, œufs, etc. Donc elles passent les frontières terrestres.
Il y a beaucoup de poulets américains.
Il y a beaucoup de poulets américains. Le poulet américain de basse qualité est aujourd'hui exporté sur Haïti et a remplacé, avant on mangeait traditionnellement du cochon en Haïti et aujourd'hui on mange plus de poulet que de cochon. Donc elles passent par les frontières terrestres de la République dominicaine, elles arrivent toujours au port. Le port aujourd'hui est un port qui fonctionne et puis par les autres ports secondaires d'Haïti, notamment le port du Cap-Haïtien et d'autres ports du sud de l'île.
Sardou Jean-Denis, quelles sont en fait les positions des gangs à l'heure actuelle vis-à-vis des paysans?
Ok, en fait, c'est que les gangs, aujourd'hui, vis-à-vis des paysans, ils se comportent comme... Il n'y a pas vraiment un traitement spécifique pour les paysans, malheureusement. Il n'y a pas un traitement. Par exemple, notamment les Madame Sarah dont je parlais tout à l'heure, elles sont souvent maltraitées, violées et rançonnées par les gangs. Elles sont traitées de la même façon que les grands commerçants. Qui commercialise ici à Port-au-Prince. Et j'ai des témoignages, par exemple, la dernière fois, moi j'étais à Kenscoff, je rencontrais le producteur de légumes à Kenscoff qui me disait que sa femme a été séquestrée. À Port-au-Prince, il a dû verser des rançons au moins à 4 reprises pour que sa femme soit relâchée. Malheureusement, ces personnes sont quand même obligées de continuer à faire cette petite commerce pour répondre aux besoins de la famille. La femme continue à écouler des laitues, des choux, etc. Tout ce qui sort de la culture maraîchère de cette zone-là sont écoulés par des femmes aujourd'hui sur le marché. Et elles ne sont pas du tout épargnées, et malheureusement, c'est cette situation. Voilà.
Alors, quels sont les intermédiaires économiques absolument indispensables pour fournir ce qui est possible de fournir sur les marchés des grandes villes, et notamment, bien sûr, Port-au-Prince, puisque Port-au-Prince, en fait, récupère les denrées agricoles de tout le pays, des 10 départements.
Oui, tout à fait, oui. Port-au-Prince est un marché central qui redispatche ensuite, qui redistribue sur l'ensemble du pays. Donc, c'est ça qui est complètement bouleversé.
Oui, c'est assez centralisé. Donc, maintenant, c'était très centralisé.
C'était très centralisé. Justement, on assiste aujourd'hui à une redécentralisation. Il a toujours existé, heureusement d'ailleurs, des marchés très locaux dans les villages, dans les communes, dans les villes secondaires. Et ces marchés, aujourd'hui, se redéveloppent parce que les agriculteurs n'ont pas d'autre choix, les paysans, les paysannes, que de tenter de vendre leurs produits aussi dans les marchés de province. Malheureusement, la crise les touche aussi puisqu'ils vendent naturellement à des prix plus bas que ceux qu'ils pouvaient espérer en arrivant à Port-au-Prince.
Alors, justement, on va parler de cette filière amont, les productions agricoles. Vous avez évoqué plusieurs difficultés pour l'agriculture, pour cultiver. Écoutez le message de cet auditeur, Rolf, dans le sud du pays, au Caï.
Bonjour 8 milliards de voisins, je suis Wolf, Je vis dans le département du sud du pays, dans la ville de Kay. Haïti est un pays essentiellement agricole. C'est ce que nous avons appris dans la géographie lorsque nous étions à l'école. Mais en ces temps qui courent, l'agriculture est très méprisée. Et pourquoi? Parce que les paysans, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir pratiquer l'agriculture. Par exemple, les paysans haïtiens ont toujours utilisé des machettes, des roues, de manière archaïque pour pouvoir pratiquer l'agriculture. Et le résultat, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de récolter beaucoup plus de denrées. Et pourquoi? Parce que les moyens utilisés sont très archaïques. Et voilà pourquoi que l'agriculture que nous avons en Haïti, c'est une agriculture de subsistance. Et lorsque je me compare par exemple avec les paysans dominicains, ils ont des grands moyens pour pouvoir exporter leurs produits à l'étranger. Mais nous en Haïti, nous n'avons pas. C'est l'agriculture qui nous permet de subsister, de nourrir un peu notre famille. Mais nous n'avons pas les grands moyens d'exporter à l'étranger pour pouvoir et nous procurer des matériels sophistiqués, des matériels, des machines mécanisées pour pouvoir mieux pratiquer l'agriculture.
Frédéric Apollin, est-ce que vous êtes d'accord avec le message de Rolf qui décrit l'agriculture haïtienne comme une agriculture archaïque avec des machettes qui ne peut pas exporter comme elle le devrait?
Alors, je ne suis pas totalement d'accord avec votre auditeur et je ne parlais surtout pas d'une agriculture archaïque. L'agriculture haïtienne, c'est une agriculture qui est très moderne. Moi, je me souviens quand j'étais jeune agronome en Haïti, j'ai vécu en Haïti un temps. On voyait apparaître des gens de l'étranger, d'autres pays, qui disaient qu'effectivement c'était une agriculture archaïque, que les cultures étaient mélangées, qu'on ne savait pas cultiver du café normalement, qu'il était toujours sous ombrage. Mais c'est cette diversité, c'est ces associations de cultures. Par exemple, qu'en Europe, on revendique aujourd'hui, on veut des agricultures diversifiées. C'est cette diversification qui fait qu'Haïti a toujours eu des agricultures résilientes. Quand il pleut trop, quand il y a de la sécheresse, on a toujours quelque chose dans son jardin. Et puis Haïti a exporté. Haïti, à un moment, Haïti, l'or noir d'Haïti, c'était le café qui s'exportait. Il était connu pour ça, le vétiver.
Qui pousse sous ombrage, contrairement à certains pays qui ont énormément déforesté pour planter des plants de café qui maintenant grillent au soleil.
Dans le jardin créole, on retrouve des arbres fruitiers, on retrouve en bas des cultures vivrières pour manger. S'il n'y avait pas le café ou le cacao, il n'y aurait pas de culture vivrière pour manger.
C'est cette agriculture à plusieurs étages.
Et ça, c'est très moderne. C'est ce qu'on appelle l'agroforesterie que tous les agronomes du monde revendiquent dans tous les pays. Les Haïtiens ont fait ça historiquement. Par contre, là où votre auditeur a raison, c'est qu'effectivement, les tailles des exploitations sont très petites. Les femmes n'ont pas accès au foncier. Le crédit pour accéder au crédit pour acheter quelques outils, y compris manuels, on n'accède pas au crédit en Haïti. Il n'y a pratiquement pas de crédit rural. L'accès au marché est difficile. Il n'y a pas de formation agricole très développée en Haïti. Donc, les contraintes sont énormes. Et c'est ça qui explique qu'Haïti ne nourrit pas sa population. Et mais ce n'est pas l'agriculture archaïque.
Et que dire aussi des conflits fonciers qui sont difficiles à régler dans la mesure où il n'y a plus de maire élu en Haïti. De toute façon, il n'y a pas eu d'élection depuis 8 ans. Hein. Mm-hmm. Il n'y a plus de parlementaires. Donc, il n'y a plus d'élus locaux, en fait.
Il n'y a plus d'élus locaux en ce moment. Les gens retournent à des systèmes traditionnels de gestion des conflits, ça peut marcher dans certains cas.
Alors vous allez nous dire dans cette situation comment vous travaillez avec l'ONG AVSF, mais on va donner la parole à un producteur de vétiver, puisque vous et Sardou Jean-Denis, vous avez cité le vétiver qui est un produit moins connu bien sûr que le cacao et le café par nos auditeurs. Le vétiver, c'est une graminée, donc visuellement ce sont des hautes herbes, mais bien sûr ce qui vaut de l'or, ce sont les racines qui servent à la parfumerie mondiale. On en discute dans quelques secondes.
8 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Bonjour les voisines, bonjour les voisins.
Et bonjour.
Nous sommes là, nous sommes ensemble.
Et allô ?
Milliards de voisins, on est ensemble.
Daniel Rivette, vous êtes producteur de vétiver, président de la CAPROV, la coopérative d'action agricole et de la promotion du vétiver. Merci d'être en ligne avec nous aussi de si bon matin.
Merci, bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs, auditrices de 8 milliards de voisins sur RFI.
Alors, je le disais, le vétiver, c'est cette plante de la famille des graminées, hein, donc des hautes herbes qui servaient d'ailleurs autrefois comme paille pour les toits, mais dont les racines se vendent pour la parfumerie du monde entier. Vous cultivez dans le sud du pays, dans le secteur des Cailles et Cavaillon, c'est bien cela? Combien d'hectares vous avez?
Donc, c'est environ 500 000 km² pour notre coopérative. Mais sachez bien qu'on n'est pas, seul dans le sud, dans les coopératives sont plusieurs. Donc, mais pour nous, la Capov, on cultive sur environ 500 000 km².
Et vous-même, vos parcelles, Daniel Rivette?
Pour moi, c'est environ un demi-hectare. C'est pas nombreux parce que j'ai commencé il y a plusieurs années, mais ça dégringole à partir des années 2000, ça dégringole, donc ça décourage les planteurs et moi particulièrement parce que tout à l'heure vous venez de dire que ça c'est de l'or, mais pour nous autres planteurs du sud, ça ne vaut rien parce que pour le moment, il se pourrait qu'un planteur de vétiver tombe malade et qu'il n'a pas les moyens, voyez bien, de se rendre à l'hôpital. C'est très grave pour nous, les planteurs du Sud.
Le vétiver qui faisait autrefois vivre des centaines de familles, aujourd'hui, quel est le principal problème? À partir du moment où vous vendez vos balles, vos chargements de vétiver, donc ces racines qu'il faut extraire de la terre, qui sont des racines très longues, ça peut faire près de 3 mètres si je ne me trompe pas, quels sont les problèmes ensuite pour toucher l'argent?
Le problème pour toucher l'argent, ce n'est pas ça, parce qu'on a l'habitude de vendre aux usiniers et à crédit, mais après, ils nous paient. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est parce qu'il n'y a pas de transparence entre les coopératives ou bien encore les planteurs et les usiniers. C'est là le plus grand problème. Et ça vient encore ajouter le problème des gangs, parce qu'on n'avait plus de clients. On avait de super, je pourrais dire, de clients à Port-au-Prince. Ça fait quelques années. On est dans l'impossibilité de vendre à ces clients-là à Port-au-Prince. Et c'est dans le sud qu'on est obligé de vendre. Et vous savez bien, lorsque le nombre de clients, ça diminue, et également le prix du vétiver, ça chute. Et ça, c'est un véritable problème, le problème des gangs. Et qui nous empêche de livrer notre marchandise dans la capitale.
Mais quand votre marchandise arrive dans les usines de transformation, elle arrive... Bon, d'abord, le vétiver est récolté dans les collines. Il est transporté à dos d'animal parce que c'est extrêmement escarpé. Quand ça arrive aux entrepôts, ensuite, est-ce que vous perdez le contrôle de la chaîne des prix?
Ah oui, on perd totalement le contrôle de la chaîne des prix parce que lorsque ça se trouve dans notre entrepôt, c'est vrai que les usiniers pourraient envoyer des camions pour les récupérer, mais et après, on n'en sait rien. On nous paie un prix qu'on ne peut pas, nous autres, discuter avec l'acheteur. Donc ça pose beaucoup de problèmes. On perd le contrôle, on perd tout, on n'en sait rien.
C'est-à-dire que vous ne connaissez pas le prix de vente finale au parfumeur, au trader de matières premières?
Non, non seulement on ne connaît pas le prix au parfumeur, mais également le rendement dans les usines, on n'en sait rien non plus. Vous voyez bien, donc nous livrons par exemple 500 balles de vétiver à une usine et on ne sait pas quel est le rendement, quel est le nombre de gallons d'huile que ça a produit. Donc là, ça pose problème. Oui, c'est là.
Est-ce qu'aujourd'hui
un grave problème.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui des producteurs qui se tournent du coup vers d'autres métiers, qui abandonnent leurs parcelles de vétiver?
Ah, vraiment, parce que le prix de la balle chute considérablement. Donc, il y a des planteurs et des travailleurs, surtout, qui laissent ce métier pour s'adonner à d'autres activités, parce que ce n'est plus rentable le vétiver comme par le passé. Et beaucoup de planteurs, beaucoup de travailleurs, donc de malintentionnaires ont laissé ce métier pour d'autres parce que le vétiver ne rapporte presque pas maintenant.
Vous avez d'autres métiers vous-même parallèlement, Daniel Rivette?
Ouais, moi je suis enseignant et j'étais obligé de me convertir par exemple dans l'agriculture vivrière et également et maraîchère. Eh bien, c'est un petit peu plus facile. Et là encore, on ne bénéficie pas, comme l'autre auditeur du Sud l'avait signalé tout à l'heure, on ne bénéficie pas des crédits de l'État haïtien, des crédits agricoles. Donc, les planteurs dominicains, donc, ils sont plus à l'aise que nous autres pour exporter leurs produits.
Sardou Jean-Denis, vous êtes également vous êtes à Port-au-Prince, hein, vous, à la différence de Daniel Rivette qui est dans la région de Décaille. Est-ce que une filière d'exportation comme le vétiver est carrément menacée aujourd'hui en Haïti?
Tout à fait. La filière est menacée de deux manières. D'abord, pour exporter le produit vers l'Europe, notamment et aussi vers les États-Unis, aujourd'hui, le port, les conditions de circulation des routes, ça complexifie beaucoup pour que les distillateurs acheminent l'huile qui est extraite de la racine du vétiver. Et autre chose aussi, c'est que, d'un point de vue environnemental également, c'est que là, paradoxalement, le vétiver, qui est une racine, qui est une culture qui est généralement adoptée en Haïti pour la conservation de sol, dans ces modes d'exploitation, comme c'est la racine qu'on doit extraire, donc il faut battre le sol, il faut l'arracher, il faut fouiller le sol. Donc du coup, quand la pluie arrive, s'il n'y a pas vraiment des techniques de conservation de sol, eh bien, tout le sol part, ce qui aggrave encore, ce qui provoque de l'érosion, ce qui affecte beaucoup la durabilité des écosystèmes. Donc, c'est une menace environnementale importante pour le Sud et aussi pour les écosystèmes de marins. Voilà.
Frédéric Apollin, justement, on arrive au terme de cette émission. Vous m'avez dit avant qu'on commence le direct, la plus grande menace pour Haïti, personne n'en parle, ce sont les sols. Pour nourrir les Haïtiens, aussi bien avec des produits exportés que des produits qui sont directement consommés sur place, quelle est la situation aujourd'hui agricole des sols et de l'environnement ?
Oui, c'est sans doute la question environnementale en Haïti, c'est une menace majeure. Il y a bien sûr aujourd'hui un problème politique et sécuritaire qui touche la vie des gens au quotidien et les touche très durement. Mais on peut espérer qu'Haïti sorte de cette crise politique et sécuritaire, et j'y crois. Par contre, on ne remettra pas sur les montagnes haïtiennes la terre qui est partie dans la mer, parce que l'érosion est majeure en Haïti, parce que la pauvreté en milieu rural
du déboisement. Hein.
Parce que les paysans et les paysannes ont été obligés, et on ne peut pas leur en vouloir, de couper des arbres pour survivre dans des conditions parfois de grande pauvreté. Et ça, c'est un problème majeur. C'est pour ça qu'il est très important de travailler en Haïti sur des cultures, sur ce fameux jardin créole, sur ces cultures en étage, sur ce cacao, ce café, mais aussi le vétiver. Le vétiver, oui, est en crise aujourd'hui, pour les raisons qui ont été exposées. Mais c'est aussi une culture qui a besoin de bonnes pratiques de culture pour à la fois continuer à faire vivre des milliers de paysans. Dans le sud, il y a des milliers de paysans qui vivent du vétiver, mais aussi pour protéger les sols. S'il n'y a pas de bonnes pratiques de culture, notamment des cultures en terrasse, en ligne de niveau, des cultures intercalaires qui, quand il pleut, évitent que toute la terre parte quand on arrache la racine du sol, eh bien effectivement, on risque de détruire à moyen terme ces sols. Et c'est un enjeu pour les distillateurs, pour les parfumeurs, pour l'industrie du parfum, de prendre en compte ces enjeux environnementaux également.
Et évidemment, c'est aussi tout l'enjeu d'une politique agricole qui est absente puisqu'il n'y a plus réellement d'État à l'heure actuelle en Haïti. Est-ce que des ONG comme la vôtre peuvent pallier le manque d'État ?
Alors, on ne peut jamais pallier le manque d'État, jamais. On peut aider l'État à se reconstituer. C'est ce qu'on a toujours fait en Haïti depuis que nous y sommes, depuis 35 ans. C'est de soutenir l'État, même lorsqu'il est faible, à mettre en place les meilleures politiques possibles.
Merci en tout cas à vous tous pour cette émission sur l'agriculture en Haïti et certaines notes positives, il faut bien le dire, notamment pour la récolte de cacao. Merci à vous Frédéric Apollin, directeur de l'ONG Agronome et Vétérinaire Sans Frontières. Merci à vous Sardou Jean-Denis de la Banque Interaméricaine de Développement en Haïti d'avoir été en ligne en direct avec nous de Port-au-Prince. Et merci à vous Daniel Rivette, producteur de vétiver, président de la CAPROV, la coopérative d'action agricole, et de la promotion du vétiver, d'avoir été en ligne avec nous dans le sud d'Haïti. J'en profite aussi pour signaler aux voisins et aux voisines que l'émission géopolitique de ce week-end était consacrée à la crise en Haïti. Elle est disponible en podcast et puis chez Priorité Santé. N'oubliez pas aussi d'écouter une rubrique régulière, deux fois par mois, Haïti nous parle, pour donner la parole justement aux Haïtiens et pas seulement parler des gangs et des civils tués, des témoignages, des inquiétudes, des douleurs, des espoirs et aussi le décryptage d'un psychologue, Ronald Jean-Jacques, à l'Université d'État d'Haïti, et de Judith Blanc, psychiatre à l'Université de Miami. Dans quelques instants, suite de notre série « Mon premier stade », présentée par Juliette Brault, le sport raconté aux enfants, une rubrique qui répond à toutes les questions, y compris sur les Jeux Olympiques, et qui est également donc toujours disponible en podcast. Ce sera juste après cette sélection de la playlist RFI, Afrobeat et Mobad chez 8 milliards.
Lift keys.
Nobody's good. You need this, but I don't care if you're good. Come and
De voisins sur RFI, tout de suite un nouvel épisode de mon premier stade. Deux fois par mois, pendant toute la période olympique, Juliette Brault répond à toutes les questions que les enfants se posent sur le sport. Aujourd'hui, Tim, 9 ans, a justement une question sur les Jeux Olympiques.
RFI.
Mon premier stade. Mon premier stade. Le sport expliqué aux enfants.
Prénom Tim. Âge 9 ans. Taille 1m43. Basketteur au club AGJA. Spécialité les tirs à 3 points. Ma question, quel est le sport le plus populaire aux Jeux Olympiques ?
Tim, bienvenue dans mon premier stade. Les Jeux Olympiques font partie des événements sportifs les plus importants au monde.
The great earthquake ravaged Japan's east coast. The tsunami in Fukushima.
En 2021, plus de 3 milliards de personnes ont suivi les Jeux de Tokyo. Ça fait pas mal de monde derrière son écran.
Ladies and gentlemen, I have the great honor to announce Paris 24, Los Angeles 28.
Avec 10 500 athlètes, 32 sports et 329 épreuves prévues, rien que pour les Jeux Olympiques d'été de Paris 2024, on peut dire qu'on a l'embarras du choix. Alors, quel est le sport le plus plébiscité par le public ? Eh bien, les JO réservent quelques surprises, Tim. Avant de répondre à ta question, il faut savoir que la popularité est déjà un critère essentiel pour qu'un sport soit inscrit au programme olympique. Ça explique pourquoi certains sports deviennent incontournables quand d'autres disparaissent. On peut comprendre par exemple que le tir au pigeon qui figurait aux Jeux de Paris en 1900 ne fasse plus l'unanimité aujourd'hui. Les sports olympiques sont donc par définition populaires. Mais lesquels sont les plus populaires parmi les populaires ? Pour le savoir, il faut aller creuser du côté du Comité international olympique, le CIO. Tim, soyons réalistes. Le comité a besoin d'établir la popularité des sports, tout simplement parce que plus un sport est regardé, plus il rapporte de l'argent. Le CIO a donc classé les sports olympiques en 6 catégories, de A jusqu'à F. Parmi les critères de popularité, on retrouve notamment les audiences télé, la couverture médiatique, la demande de billets ou encore le nombre de fédérations nationales. Regardons le classement pour la dernière édition des Jeux d'été à Tokyo. Dans la catégorie F, celle des sports les moins plébiscités, sont donc nommés le baseball, le karaté, le skate, l'escalade et le surf. On les applaudit quand même. Dans la catégorie A, celle des sports les plus populaires donc, on retrouve l'athlétisme, la natation et, roulement de tambour, la gymnastique. Toi qui es basketteur, tu seras peut-être content de savoir que le basket fait partie de la catégorie B. À côté du cyclisme, du tennis, du volley-ball et du football. Et oui, le football qui compte le plus de fans autour de la planète n'est pas le sport phare des JO. Tu vas peut-être te demander pourquoi. Eh bien, sans doute parce que les JO ne sont pas inscrits au calendrier officiel de la Fédération internationale de football, comme l'Euro ou la Coupe du Monde. Les meilleurs joueurs participent donc rarement à la compétition olympique. Certains athlètes sont devenus de véritables icônes olympiques. Pour te donner un exemple, la finale du 100 mètres hommes des JO de Rio en 2016 a été suivie par 35 millions de personnes rien qu'aux États-Unis. Tous les yeux étaient braqués pendant 9 secondes et 81 centièmes sur Usain Bolt, recordman de la discipline. Ce soir-là, le Jamaïcain remportait son troisième titre olympique consécutif sur le 100 mètres. Incroyable, Usain entre dans la légende, 9,80. La popularité d'un sport dépend aussi des chances de médaille. Plus un pays a des chances de remporter un titre dans un sport, plus il sera suivi à la maison. Allons du côté de la Chine. Devine quel a été le sport le plus regardé par les Chinois aux JO de Tokyo ? Le tennis de table, bien sûr, avec pas loin de 350 millions de téléspectateurs et plus de 190 heures d'antenne. Voilà, Tim. Ce qu'on a envie de voir aux JO, ce sont des performances, des records et bien sûr des médailles pour son pays. Et toi, tu vas regarder quoi aux JO de Paris ?
Mon premier stade.
On est dans la même équipe.
On est dans la même équipe.
Ouais, chez 8 milliards de voisins, on est tous dans la même équipe. Mon premier stade, le sport raconté aux enfants par Juliette Brault et mis en onde par Romain Dubrac. Retrouvez en famille tous les épisodes en podcast sur RFI Pure Radio et sur les plateformes de téléchargement. Demain, 8 milliards de voisins, nous parlons éducation, comme chaque semaine, notamment salaire et conditions de travail des enseignants. Les maîtres d'école sont-ils des ouvriers comme les autres ? Vous avez la parole sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Et bien sûr, on se retrouve avec toute l'équipe. Juliette Brault, Raphaël Pluskva, Romain Dubrac, Pauline Berthélémy qui était aussi aux relations auditeurs. Et dans quelques secondes maintenant, dans un peu plus d'une minute très exactement, à suivre RFI Midi. À demain les voisins et les voisines.